Alléluia. Ah, on est réveillé ce soir? On a faim ce soir? On attend l'heure du souper ce soir? On sert un grand Dieu, un Dieu glorieux, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein d'amour, un Dieu fantastique. Et on chante sa gloire et on le célèbre, le Dieu capable et le Dieu puissant, le Dieu de victoire. Et alors que je préparais ce message, je pensais un petit peu à ce côté un petit peu victoire dans notre vie. Vous savez, nous, on aime la victoire, on aime gagner. Et un jour, un prédicateur disait, « Moi, j'aime gagner aussi. Alors, pour gagner, je mets toutes les chances de mon côté. Je vais vers le plus fort. Et le plus fort, c'est Dieu. Alors, quand je suis avec Dieu, ben, du coup, je suis gagnant. » Logique. Incroyable. Mais on gagne aussi, on a la victoire. Comment? Pourquoi? On a des victoires parce qu'en fait, on mène des combats. Il n'y a pas de victoire sans combat. Non? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez déjà gagné assis sur votre canapé? Est-ce que vous avez déjà gagné assis, allongé sur votre lit, à ne rien faire, à procrastiner? Et je pense que ce soir, un peu 20h30, c'est un peu le JT. Bon, après, il y a les films, un peu les films de guerre. Je ne sais pas si vous avez en tête un peu tous les films de guerre que vous avez pu voir dans votre enfance ou dans le passé. Moi, j'en ai vu quelques-uns et je trouvais ça très intéressant. Et ce soir, je vous propose de voir un peu une bataille. Et c'est la bataille avec Moïse. Qui connaît Moïse? Ça va? Tout le monde connaît à peu près. Hein, c'est connu, hein, tout le monde. Moïse, les 10 commandements, l'Égypte, la mer, ça ouvre en deux, il lève le bâton, c'est cool. Et je vous propose ce soir, en fait, la lecture juste après, en fait, le passage de la mer Rouge. Et ce passage se trouve dans Exode 17 et au verset 8 jusqu'au verset 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. » La verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Yahweh Nissi. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Je vous propose de prier ce soir, juste avant de commencer le message. Seigneur, nous sommes là devant toi et je te prie d'ouvrir nos oreilles, je te prie d'ouvrir nos cœurs, à disposer cela, Seigneur mon Dieu, à l'écoute de ce que tu veux nous dire au travers de cela, de ce texte, Seigneur mon Dieu, de cette pensée. Et je veux te prier afin que tu conduises toutes choses. Merci pour les prières, merci pour les chants, merci pour les personnes qui sont là, Seigneur mon Dieu. Tu règnes encore, Seigneur mon Dieu, en cette journée, en cette soirée. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, encore que tu nous parles, Seigneur mon Dieu. Alors je te supplie, Seigneur mon Dieu, nous voulons déposer tout fardeau, toute fatigue, toute chose qui viendrait, Seigneur mon Dieu, nous retenir, de nous focaliser sur ta présence, sur ta voix, Seigneur mon Dieu, parce que tu as quelque chose de bon à nous dire et nous voulons le recevoir de ta part. Alors Seigneur mon Dieu, viens régner au milieu de nous par ton Esprit Saint. Merci pour tout, Jésus. Amen. Pour remettre un peu le contexte, vous savez, donc le peuple hébreu est un peu sous la servitude pendant 400 ans par l'Égypte. Donc vous connaissez à peu près bien cette image, les 10 plaies, tout le monde connaît. Ensuite, le peuple hébreu arrive à partir, Moïse lève la verge, le bâton, c'est-à-dire ouvre la mer en deux, le peuple traverse, l'armée de Pharaon passe derrière et lui il se fait écraser par la mer. engloutir. Ensuite, la victoire est là. Donc, le peuple arrive, il est content, il loue Dieu, il adore. Ouais, l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, je le célébrerai. Ils sont contents, ils sont heureux. Ensuite, passé quelques jours dans le désert, ils arrivent et ils arrivent à râler. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai soif. Et l'eau qui est juste devant moi, c'est de l'eau amère. Alors, on est un petit peu comme les syndicats. On arrive, on fait « Moïse, on a faim, on a soif. À manger, à boire, à manger, à boire. » Et Moïse va demander conseil à l'Éternel. Et Dieu va leur accorder de la nourriture. Et Dieu va leur accorder à boire. Ça, c'est le contexte. Ensuite, après cela, on arrive. Et là, c'est le combat. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. On ne nous dit pas pourquoi ni comment Amalek a su comment les Hébreux sont sortis d'Égypte, mais ils viennent. Dans notre vie, je ne sais pas vous, mais je pense qu'on a tous des luttes, on a tous des combats dans notre vie. Et je pense que des fois, on ne choisit pas nos combats. Et ces combats viennent à nous, et des fois, on est obligé, on va dire, de manager, de faire avec, de les gérer, alors qu'en fait, on ne les a même pas cherchés. Et c'est un peu ce qui se passe, en fait. Du coup, Amalek vient et attaque le peuple élu de Dieu. Et on est là, et j'aimerais qu'en travers de ce récit, ce soir, on arrive à tirer des leçons. Au verset 9, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Ça, c'est de la stratégie. Imaginez vous enrôler pour l'armée de terre, et puis il y a une guerre qui est déclarée, on rentre dans la bataille, et puis donc on s'entraîne, on va au combat. Et puis normalement, donc on a des stratégies, toi tu vas sur le flanc gauche, toi sur le flanc droit, et puis après on va prendre par derrière, et puis on y va, fusil, canon, tank, enfin la totale, vous connaissez quoi. Mais lui dit, ok Josué, toi tu prends les hommes les plus courageux, tu y vas à la guerre, moi je vais au sommet avec quelques copains, et puis après je vais juste te regarder du sommet et on va voir ce qui se passe. Ça, c'est de la stratégie. Vous avez déjà vu un petit peu les stratégies de guerre de Dieu ? On va voir, je ne sais pas, pour les lecteurs de la Bible, Jéricho, vous connaissez ? La ville imprenable, la ville fortifiée, personne ne pouvait la prendre. Et puis, souvent, on va faire une stratégie, ouais, on va envoyer, on est au XXIe siècle, on ne va pas dire un gros canon, mais un trébuchet peut-être. Et là, non, Dieu dit, vous allez tourner autour pendant 7 jours, et bam, les murailles s'écroulent. Incroyable. Et là, on parle un petit peu de stratégies de Dieu qui sont au-delà de notre intelligence, au-delà de notre sagesse. Romains 12:2 nous dit, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On est appelé en fait à avoir une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Et le verset d'avant, le verset premier, en fait, il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » Et je vais le retranscrire comme ça, un peu pour le retraduire un petit peu, pour qu'on comprenne un peu mieux. « Soyons disponibles. Mettons-nous à disposition de Dieu. » Moïse était là, il était à l'écoute de la stratégie de Dieu. Et puis, sous la recommandation de Moïse, Josué écoute les instructions de Moïse. C'est la première fois qu'on fait mention de Moïse, de Josué dans la Bible, là, dans ce passage. Et là, il dit, Josué s'est exécuté, il a obéi. C'est-à-dire, il y a vraiment une sorte de chacun son rôle, chacun à sa place, il obéit. Pas de mutinerie. Il dit, mais non, mais ta stratégie, elle est un peu bizarre. Pourquoi moi, j'irai au combat pendant que toi, tu nous regardes d'en haut au sommet ? Non, 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 non. Il dit, ok, cet homme-là, Moïse, j'ai été témoin que c'est un homme de Dieu. Je me souviens qu'aussi, sa stratégie bizarre d'aller voir Pharaon et ensuite de faire ce que Dieu a fait avec les 10 plaies, C'était quelque chose que je n'aurais pas conçu dans ma tête. Mais ça a marché. On est sorti du peuple d'Égypte. Et là, ok, moi je vais au combat. Je suis un jeune combattant parce que Josué à l'époque est jeune. Et Moïse, lui, du coup, il va aller sur la colline avec Aaron et Hur. Il s'exécute. Ici, on parle de combat et de guerre, mais j'aimerais qu'on comprenne un petit peu, des fois, qu'est-ce qu'on combat et qui on combat. Vous savez, bien des fois, je pense, et très fortement, on ne choisit pas nos combats, mais des fois, on tombe dans des combats ou des fois, on livre des batailles qu'on n'a pas menées. Et des fois, on ne comprend pas même qu'est-ce qu'on combat ni qui on combat. On croit dans ce qu'on voit que, par exemple, quand quelqu'un est contre nous, par exemple, dans le cas de, je veux dire, la justice, par exemple, quelqu'un va nous attaquer. Du coup, en fait, on combat pour se défendre. Et ça, c'est dans le visible. On combat peut-être, par exemple, on est en désaccord avec le système politique. Du coup, on va combattre et on va faire la révolution. Mais Éphésiens 6, au verset 12 et au verset 13, dit « En effet, ce n'est pas contre l'homme, c'est-à-dire mon copain, ma copine, mon frère, ma sœur, ni les gens, ni mon prochain, que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Alors je voudrais juste éclaircir quand on dit autorité, souverain de ce monde, puissance, on n'a rien contre le président Emmanuel Macron, ni contre le gouvernement français, ni aucun autre gouvernement. Quand il est mention de tout cela, en fait, il s'agit donc de cette réalité invisible, donc des esprits méchants, des démons, le diable et son armée. Ça, ce sont nos vrais ennemis. Ça, c'est ce pourquoi nous qui croyons en Jésus-Christ, nous combattons. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas l'homme. Nous combattons le diable et son armée. Et quand on comprend cela, en fait, on prend mieux les armes parce que ce n'est pas les mêmes armes. Quand on va à la guerre, on comprend qu'on va prendre le tank, on va prendre le canon, on va prendre les grenades, on va prendre les mines anti. Mais quand on combat le diable, on ne combat pas de la même manière. Quand on comprend qu'on combat les souverains, les autorités, les puissances de ce monde de ténèbres contre les esprits du mal, on ne combat pas de la même manière. Et dernièrement, donc, le pasteur avait fait une étude donc, sur les armes, donc le bouclier, la ceinture, la cuirasse, et je ne vais pas y revenir. Réécouter les messages, il y a plein de personnes, plein de prédicateurs, plein de messages par rapport à tout cela. Mais ce n'est pas le propos de ce soir. Ce soir, je voudrais juste qu'on réalise en fait aussi quel combat nous menons. Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang. Et bien souvent, quand j'y repense à chaque fois, je me dis mais j'ai mené tellement de combats pour avoir raison, pour gagner un débat, pour gagner, même pour dire ben, telle personne m'a fait telle injustice ou même telle dispute. Je voulais gagner, je voulais avoir raison. Mais quand je gagne et que j'ai raison, est-ce que je suis vraiment gagnant? Quand on me fait justice, est-ce que je suis vraiment gagnant? Ou alors j'ai juste eu raison, puis en fait, finalement, ce que j'ai perdu, c'est une relation. Ce que j'ai perdu, ce que j'ai causé, ce que ça a causé, c'est peut-être une blessure, quelque chose de difficile. C'est peut-être du mal, du tort. Peut-être oui qu'on m'a causé, peut-être que j'ai causé. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a voulu? Est-ce que c'est le combat que l'on veut mener ici, bas sur terre? Le combat contre la chair et le sang? Dans le contexte, Éphésiens 6, vous savez, si on étudie un peu les grands thèmes de Éphésiens, c'est la diversité dans l'unité. Ou l'unité dans la diversité. Je ne sais pas comme, dans quel sens vous voulez. Unité et diversité. Quand on reprend tous les grands thèmes, c'est unité et diversité d'origine. Je suis juif, enfin, je suis d'origine juive, je ne suis pas juif, mais du coup, on travaille ensemble parce que Jésus-Christ nous a sauvés. Ça, c'est le centre, le point commun. Que je sois d'origine juive, que je sois d'origine asiatique, que je sois d'origine africaine, que je sois d'origine américaine ou d'origine européenne, on a des cultures, des éducations différentes. On a une manière de concevoir une interprétation différente. Mais on travaille dans l'unité. Cette diversité ne doit pas faire de nous des gens qui sont en conflit permanent, mais des gens qui s'enrichissent et se complètent. Unité et diversité dans l'Église de dons. Chacun n'a pas reçu les mêmes dons. Est-ce que les dons font que du coup, telle personne est plus importante, telle personne est moins importante? Non, on a tous reçu les dons. Et quand on sait et on comprend, on réalise dans notre cœur que les dons viennent de Dieu, que l'on en est un, deux, trois, plusieurs, on s'en moque parce qu'on comprend que ces dons, aussi différents soient-ils en chacun d'entre nous, sont faits pour quoi? Pour le corps de Christ. Unité et diversité sociale. Ici, au XXIe siècle, on va dire c'est plutôt richesse, pauvreté, classe moyenne. Et tout ça, on arrive à s'entendre. À l'époque, c'était... Bon, ils étaient un peu tous esclaves d'Égypte, enfin, ex-esclaves d'Égypte. Donc, du coup, ils avaient à peu près tous à peu près la même condition sociale. Mais tous étaient prêts, même s'ils s'étaient disputés, même s'ils avaient râlé auprès de Moïse, auprès de Dieu, on a faim, on a soif. Mais ils s'étaient tous mis d'accord parce qu'ils disaient, OK, les Amalek, il est là, les Amalécites sont là, ils viennent nous faire la guerre. Il faut un petit peu qu'on arrive un petit peu à conjuguer tout cela, toutes nos différences, et mettre toutes nos différences de côté pour combattre le vrai combat qui se trouve devant nous, les gens qui viennent nous faire la guerre. Vous savez, Amalek, c'est un peu ce qui se répète au fur et à mesure du temps et des siècles, pas sous la forme d'un peuple, mais plutôt ce qu'on vient de dire, les autorités, la puissance du mal, les souverains de ce monde de ténèbres. Ce sont les esprits méchants. Quand on combat comme ça, on comprend. Quand on comprend notre combat, la guerre que nous livrons, on perçoit les choses de manière différente. Quand je suis en dispute avec mon frère, quand je suis en dispute avec ma sœur, quand je suis en dispute avec mon fils, ma femme, je ne veux pas concevoir d'avoir raison. Je veux concevoir que nous soyons gagnants, vainqueurs. Et on en sort tous fortifiés. C'est ce que nous montre le texte. Vous savez, dans l'Église, on est tous de différentes, si je vais dire différentes, diversités sociales, je pourrais même dire diversité générationnelle. Il y a des jeunes, puis il y a des un peu moins jeunes, puis il y a des beaucoup moins jeunes, et puis il y en a qui sont un peu loin de quitter la jeunesse. Et cet homme, Josué, c'est cet homme qui assure, qui comprend Moïse, le responsable spirituel, le serviteur de Dieu, et qui derrière comprend, peut-être pas forcément l'enjeu, mais en tout cas, il se met à disposition pour mener le combat. Et j'ai marqué qu'elle représente la jeunesse qui assure avec son courage. Vous, les jeunes, vous êtes là, menons le combat. Merci Seigneur pour Bouge ta ville. Merci Seigneur pour Jeunesse pour Christ. Merci Seigneur pour tous les rassemblements où nous pouvons manifester l'amour de Christ avec la jeunesse, mais aussi avec les moins jeunes. Mais nous tous, nous sommes la génération Josué. Je m'inclus dedans encore, je suis encore jeune. Et nous sommes là. Parce que nous pouvons, nous sommes plus disponibles. les gens un peu moins jeunes, qui ont quelques soucis de santé, un peu moins mobiles, eh ben, ils sont un peu comme Aaron et Hur. Vous savez, Moïse, il a un peu 80 ans. Donc du coup, aller au combat, c'était un peu logique que ce n'était pas encore son truc. Lui, il fallait vraiment qu'il lead et qu'il intercède auprès de Dieu. Et sa forme, c'était « je lève les bras, je lève le bâton de Dieu pour remporter la victoire. » Et ça, c'est le combat avec Moïse. Mais Moïse n'est pas seul. Les leaders spirituels, les responsables spirituels que Dieu a établis un peu partout, en France, à Toulouse, dans le monde entier, ne sont pas seuls. On n'est pas appelés, ce n'est pas parce qu'il y a un ministère don de pasteurs, d'évangélistes, d'apôtres, qu'on travaille seul, sous prétexte qu'on a reçu un ministère don, une vocation particulière. Non, Dieu a établi des hommes pour travailler ensemble. Et Moïse avait cet appel de Dieu d'être ce leader spirituel. Mais il avait à côté de lui Aaron qui l'épaulait. Là, dans ce contexte, il avait Hur aussi en plus. Dans le contexte encore plus de la traversée du désert, il avait aussi Myriam. Et ce n'était pas tous parfaits, hein? Mais ils étaient là. Alors que Moïse, fatigué avec ses bras qui levaient, Aaron et Hur étaient à côté. Et ils soutenaient. Et on dit, tiens, assieds-toi sur ce rocher, chose solide. Et nous, on va t'aider à soutenir les bras jusqu'à la victoire. Parce que parfois, les combats, les luttes, les batailles, ça dure. Et nous, on doit être là à répondre, à soutenir. Sinon, on est là à Toulouse-Ouest, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en dehors de ces murs, il y a un peuple qui meurt. Un peuple que Dieu cherche. Et nous qui connaissons Dieu, on serait juste enfermés là. On est là pour briller. On est là ensemble, travaillant. Nous, le corps de Christ, nous qui avons connu, nous qui connaissons l'amour de Dieu, aller en dehors de ces murs à travailler, à soutenir les ministères en place, les différents responsables dans les différents départements, les enfants, les ados, les personnes âgées. Tous, chacun. Pourquoi ? Parce que nous avons un mandat en tant qu'enfants de Dieu. Allez, par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai appris. Portez le témoignage de l'amour de Christ et l'édification du corps. Voici notre mandat, voici notre combat. La finalité, c'est que Josué fut victorieux d'Amalek, verset 13. Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Au tranchant de l'épée m'a fait penser justement à cette arme de Dieu citée dans Éphésiens 6, au verset 17, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes un jour amusé à prendre une lance, un bâton, enfin une arme, pas un pistolet, hein, une arme métallique, et à essayer un peu de la manier. C'est difficile, hein, on n'est pas habitué, on apprend. Et parfois, on utilise la parole de Dieu un peu tranchante, mais pas de la bonne manière. Et quand j'avais réfléchi à la parole de Dieu, je l'avais réfléchi en faisant trois pas en arrière, alors pas sur le plan physique, mais le message de la parole de Dieu. Quel est ce message de la parole de Dieu ? De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu est en train de nous dire « je t'aime ». Dieu est en train de dire « si je t'ai créé, toi, l'homme, la femme, l'humain, c'est parce que tu es l'objet de mon amour. C'est parce que je suis amour et tu es l'objet de mon amour. Et je veux partager cet amour. Je veux avoir cette relation père-enfant avec toi. J'ai créé le monde autour pour toi, pour que tu puisses y vivre, dans cette communion. Alors quand j'attaque mon frère, ma sœur, quand j'attaque mon prochain, quand je suis offensé ou quand j'offense même mon prochain, je suis loin de ce plan, de ce message d'amour. Lorsque je parle de l'épée tranchant, lorsque je parle de la parole de Dieu, je parle d'une arme puissante qui n'est pas de notre sagesse. C'est l'amour. Et en y repensant, en fait, avec tous les événements qui se passent dans la Bible, Jésus, il est venu avec une arme aussi puissante. C'est la même arme. Lui, la parole faite chair, avec l'amour. Quand il est descendu, il n'est pas venu nous dire « Hé, j'ai raison ou j'ai pas raison. » Il a dit « Voici le message nouveau. Le royaume des cieux est là, il est proche. Je suis venu pour vous réconcilier avec Dieu le Père. » Il est venu apporter ce message d'amour et ensuite il est parti le manifester à la croix, payant le prix pour que nous soyons comme le peuple hébreu à l'époque, mais nous pour l'éternité, sauvés de l'esclavage, du péché qui nous destinait à la mort éternelle. Et nous, on doit combattre avec ça. Avec cette arme, l'amour, ne pas utiliser la parole de Dieu, la Bible, juste pour trancher, dire j'ai raison, ou alors ce que tu fais, c'est pas bien, mais c'est pas constructif. Comme je l'avais dit la dernière fois, l'amour construit. Le deuxième mandat, enfin, c'est un peu arbitraire de dire le deuxième, l'édification, construction dans l'amour. Jésus est venu non pas pour séparer. Ça, c'est l'œuvre du diable. Quand on se dispute, quand on se querelle, quand on cherche à avoir raison, quand on essaye de remplir notre ego, tout ça, toutes ces choses qu'on retrouve dans les œuvres de la chair, par exemple, dans l'épître de Galates, on est en train de faire, ok, les œuvres de la chair, mais l'œuvre du diable. Et je veux m'y refuser, parce qu'on est la lumière du monde, parce qu'on doit porter la bannière de Christ, Yahweh, Nissi. L'Éternel est ma bannière. Cette bannière qui dit que, vous savez, dans l'armée, on marche, il y a quelqu'un qui marche devant, avec ou sans cheval, avec une bannière représentant la patrie. Et nous, nous sommes de la patrie céleste. On marche avec cette bannière qui dit « Dieu t'aime, Dieu t'aime, tu n'es pas parfait. » Tu es peut-être même, bon, peut-être pas le pire, ce serait horrible de dire ça, mais en tout cas, tu n'es pas du tout parfait, mais Dieu t'aime. Et lorsque je marche avec cette bannière, mon désir, ce n'est pas ta perte ou dire que je suis meilleur que toi parce que je crois en Dieu puissant. Mais comme je suis au privilège de ce Dieu puissant et de ce Dieu d'amour, je veux te le faire connaître. Comme je connais ce Dieu puissant, plein d'amour, plein de miséricorde et qui m'a accordé un si grand pardon, alors je veux te demander pardon. Je veux pardonner en retour parce que ma victoire, c'est la réconciliation. Parce que ma victoire, c'est l'édification. Ma victoire, c'est l'unité malgré notre diversité. De génération en génération, Amalek attaque sous cette forme-là. Lorsque je pardonne, lorsque j'exerce l'amour, lorsque je pardonne, je suis en train d'exercer l'amour. Lorsque je dis bonjour, lorsque je dis une gentillesse, lorsque je porte attention à mon frère, à ma sœur, à mon prochain, j'exprime mon amour. Dans la suite d'Éphésiens 6, priez. Et lorsque je prie, je suis en train de dire, alors vous savez, souvent on dit prier, c'est demander Dieu, c'est vrai, mais Dieu ne demande pas à ce qu'on prie pour prier, pour demander à Dieu, pour l'exaucement. Dieu demande à ce qu'on prie pour établir la relation avec Dieu. C'est la communication. Et on a une relation que quand on communique les uns avec les autres. Et lorsqu'on prie, on est en train de dire « Dieu, je t'aime ». Lorsqu'on prie, on intercède cette fois-ci, on est en train de dire à mon prochain, à mon frère, ma sœur, je comprends ta douleur, on va mener ça au combat ensemble. Je suis en train de dire, je t'aime, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Tu n'es pas seul dans ce combat. Je voudrais ce soir qu'on réalise vraiment pour qu'on combatte le bon combat et qu'on utilise les bonnes armes. On prie, on aime. Et si c'est difficile, que Dieu nous aide. Parce que ce sont des choses très fois extrêmement difficiles. Vraiment. Je ne dis pas ça parce que la théorie, c'est toujours très facile. Et que Dieu nous aide à mettre en pratique toutes ces choses-là. L'Éternel, mon étendard. Dieu demande à Moïse de construire un autel. Pourquoi ? Pour nous souvenir que l'on combat avec amour. Vous savez, quand on célèbre le 14 juillet, le 8 mai, c'est pour nous souvenir que le 8 mai, c'était la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Le 14 juillet, prise de la Bastille, début de la Révolution, on sort de la monarchie. Et on se souvient de ces choses-là. Et lorsque Moïse construit, lorsqu'on a les fêtes de l'Éternel, lorsqu'on a Pâques, lorsqu'on a la Pentecôte, lorsqu'on a les différentes fêtes, et lorsqu'on en a à Sainte-Seine, on prend le temps de se souvenir de qui est Dieu et de qui on combat et de pourquoi on combat. Et c'est comme ça qu'on ne perd pas de vue les choses importantes et essentielles. Dieu nous appelle à aller plus loin. J'aimerais ce soir vraiment qu'on prenne le temps que Dieu travaille notre cœur et de dire, Seigneur, bien des fois, je combats mal. Bien des fois, je combats le mauvais combat. Et Seigneur, ce soir, je veux combattre le bon combat. Et pas que ce soir, demain, encore et encore et encore, jusqu'à la victoire. Que cette église se multiplie, que nos réunions du mardi soir soient remplies des gens qui comprennent, des gens courageux, disponibles, qui se mettent à disposition pour gagner le combat, pour mener le combat. Parce que le Dieu qu'on sert est un grand Dieu. Et si nous répondons présent ce soir, nous répondons présent à chaque fois que Dieu nous demande pour prier, intercéder, nous menons le combat, un combat que nous menons. Pourquoi ? Pour la victoire. Notre victoire, c'est la vie éternelle. Notre victoire, c'est la réconciliation avec Dieu le Père. Elle est déjà acquise. Il nous faut juste persévérer et vivre en espérance. Soyons dans la foi lorsque nous prions. Ne venons pas juste parce qu'il faut venir assister à une réunion. Soyons participants de cette réunion. Prenons des victoires ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour tout, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous montres l'exemple, Seigneur mon Dieu. Et je veux te demander pardon parce que, Seigneur mon Dieu, je ne veux pas perdre la réalité des gens perdus au dehors. Je ne veux pas perdre la réalité des gens que, Seigneur mon Dieu, des gens, ma famille, des membres de ma famille qui ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu, sont perdus. Je veux te prier, Seigneur mon Dieu, afin que tu ravives en moi, en nous, en ton peuple, Seigneur mon Dieu, la réalité de ce combat. Que mon frère, ma sœur n'est pas mon ennemi. Que, Seigneur mon Dieu, mon prochain n'est pas mon ennemi. Que je ne suis pas à la recherche d'une vaine gloire, mais que je suis à la recherche d'exprimer l'amour que tu as exprimé en ton Fils Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Je veux, Seigneur mon Dieu, que tu convainc mon cœur, que tu convainc nos cœurs, Seigneur Jésus, que la chose la plus importante, c'est, Seigneur mon Dieu, cet amour pour mon prochain, pour le sauver, parce que par amour pour mon prochain, par amour pour moi, tu t'es fait homme, tu as accepté l'humiliation, tu as accepté de recevoir les coups, tu as accepté le rejet de ton peuple, Seigneur mon Dieu, et tu es mort pour lui. Seigneur mon Dieu, tu as dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais nous aujourd'hui qui savons, on veut intercéder, prier, on veut prendre conscience de ces réalités. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon vraiment, Seigneur mon Dieu. Viens nous visiter, viens faire de Toulouse-Ouest une église réveillée où ces chaises le mardi soir sont remplies, où lorsque l'on a des réunions de jeûne et de prière ce soir rempli, qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit, qu'il y ait des visitations, des renouvellements dans le Saint-Esprit, qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, des guérisons, des prodiges, des miracles, Seigneur mon Dieu, des guérisons de cœur, Seigneur Jésus. Nous voulons un peuple nombreux, nous voulons un peuple pour toi, parce que nous avons le privilège de te connaître toi, et nous voulons partager ce privilège tout autour de nous. Seigneur mon Dieu, merci, merci pour le privilège que tu nous donnes de te connaître et de connaître ton amour, et nous ne voulons pas être égoïste, Seigneur mon Dieu, mais nous voulons le répandre tout autour de nous. Alors, Seigneur mon Dieu, aide-nous à combattre le bon combat de la foi, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout, Jésus. Amen.